je ne ferai pas 1 Corinthiens 14. Parce que Baptiste fait tellement bien Corinthiens, je dis c'est bien qu'il continue. En début d'année, on a eu un séminaire. Est-ce que vous vous rappelez de quel séminaire on a eu ? Sur la prière, exactement. Et je pense qu'un petit rappel n'est pas vain. D'ailleurs, pour ma part, dans ma vie chrétienne, qui commence à faire pas mal d'années maintenant, 42 ans, je lisais de temps en temps un livre sur la prière. Il y a des livres que j'ai lus X fois pour m'encourager, pour me redonner un coup de... Parce que persévérer dans la prière, c'est pas si évident que ça. Et la Bible dit persévérer dans la prière ou prier avec régularité et persévérance. Et dans Luc, Jésus lui dit, leur dressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ça, c'est vrai qu'on peut facilement se relâcher ou sans se décourager. Parce que des fois, on se décourage dans la prière. Alors, vous vous rappelez de ce qui avait été fait. Et il avait donné une méthode sur une heure où il avait partagé chaque session de 5 minutes. Donc il y avait deux où on pouvait mettre ce qu'on voulait. Mais il y avait louer, méditer, confesser, se nourrir, se protéger, intercéder, demander, remercier et chanter. Et j'espère que vous l'avez, ceux qui l'ont acheté ou qui l'ont reçu, l'ont médité, qu'ils ont travaillé là-dessus, parce que c'est bien de pouvoir continuer. Il y a un mois de cela, on m'a invité à l'église de Saint-Denis. Eux, ils n'avaient pas simplement un séminaire sur la prière, mais c'était un mois entier où ils allaient parler sur la prière. Donc, ils m'ont demandé de commencer le mois sur la prière. Et du coup, je vais vous partager en deux dimanches, Dieu voulant, ce que j'ai partagé là-bas à Saint-Denis. Prier, oui, mais comment prier ? Alors, c'est vrai qu'il y a la méthode qu'avait donnée Yann Nouberi, mais il y a la méthode que le Seigneur a donnée aussi. À un moment donné, c'est dans Luc 11, il est dit, « Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et c'est formidable que cet homme ait pu poser cette question à Jésus. Parce que grâce à cette question, à cette demande, nous avons, en fin de compte, une prière que le Seigneur a donnée, le Notre Père. Et le Notre Père, on le retrouve dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Et je vous demande qu'on regarde ensemble donc Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Matthieu 6 à partir du verset 9. J'avais déjà traité ce sujet-là il y a une vingtaine d'années ici. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Ou alors je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là je l'avais traité sur plusieurs dimanches. Là, on va le faire que sur deux dimanches. Donc, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Une prière bien connue, une prière connue par les croyants et même par les incroyants. Cette prière, elle est connue même des incroyants. C'est une prière qui est récitée dans certaines liturgies, dans certains offices. Il y a même certains pratiquants qui la récitent il se faut à toute vitesse. Je ne pense pas que le Seigneur voulait cela. D'ailleurs, juste avant, il avait dit ceci: en priant, ne multipliez pas les paroles comme des membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Cette prière que le Seigneur nous a donnée est un modèle, un guide pour nous aider dans la prière, un genre de cadre. Et c'est pour cela qu'on va essayer de méditer ce que veut dire le Notre Père. Parce que c'est une prière qui nous engage aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une prière qui nous engage. Et vous allez remarquer que c'est un engagement. Parce qu'on peut dire des choses, mais est-ce que j'accepte ce que je demande dans ma propre vie? Donc aujourd'hui, on verra ensemble notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu voulant, le 25 novembre, on donnera la deuxième partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Notre Père. Notre Père. C'est une appellation qui indique un Dieu personnel, pas un genre de force cosmique, mais bien personnel, qui quelque chose de très intime, notre Père. Mais alors on va se poser la question: est-ce que Dieu est le Père de tous? Oh, c'est une drôle de question que je pose là. Alors c'est vrai qu'il est le Père de tous, point de vue création. On voit dans Malachie: n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ou dans Éphésiens, où il dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux tire son nom. Il est aussi dit que il est le père du peuple juif, car je suis un père pour Israël. À un autre endroit, il dit qu'il est le père des orphelins. Mais est-ce que spirituellement, il est le père de tous? On va lire ensemble Jean 8, verset 30. Jean 8, verset 30. C'est très intéressant parce que il est dit: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il commence comme ça: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous ne sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave, ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous me cherchez à me faire mourir parce que Ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous faites la part de ce que votre Père. Ils lui répondirent : mais notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit : si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, et j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et Jésus insiste. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent : mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ouah ! Je ne sais pas comment ils ont pu réagir à ce que Jésus a dit. Quoi ? Le père, le diable ? Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il insiste. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je répète, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Là, dans ce passage, on parle de deux pères. On parle d'un côté le père qui est Dieu et le père qui est le diable. Et il y a un autre passage qui dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Ah, comment on peut les reconnaître ? Eh bien, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est fort, hein ? Et un autre passage où l'apôtre Jean encourage, il dit : voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est un privilège. Dieu vous a appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc on voit encore là une différence. Et il y aurait bien d'autres passages. Alors, la question qui est importante de se poser, est-ce que Dieu est mon Père ? Le Créateur, oui, mais est-ce qu'il est mon Père d'une façon spirituelle ? Est-ce que j'ai cette intimité avec ce Père-là ? Mais pour qu'il soit mon Père, est-ce que je suis son enfant ? Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Ça, c'est important. Est-ce que je suis enfant de Dieu ? Est-ce que je suis devenu ? Et il y a un passage qui nous dit comment on devient enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Est-ce que j'ai reçu ? Est-ce que je suis né d'en haut ? Né de Dieu. Et ça, c'est une expérience qu'on doit faire. Si je n'ai pas fait cette expérience, je ne suis pas enfant de Dieu. Et Dieu n'est pas mon Père. C'est important. On est comme il est dit dans Éphésiens 2, quand l'apôtre Paul écrit aux chrétiens, il dit, vous étiez avant des enfants de colère. Vous suiviez le prince de ce monde. Vous agissez comme le prince de ce monde, selon la prince de la puissance de l'air. Mais maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Et dans Galates, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans Romains, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, peut-être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et Abba, c'est pas Abba, hein, c'est Abba, c'est « cher Père ». Papa, c'est un terme très affectueux. Mais pour le dire, il faut avoir reçu l'Esprit. Il n'y a pas que ce passage-là. Dans Galates, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Quel privilège, n'est-ce pas ? Appeler Dieu Père, Papa, mon Père. L'apôtre Paul, bien souvent dans ses lettres, dans beaucoup de lettres, presque toutes, à exception quelques-unes, mais la plupart, dit que la grâce, il écrit à des saints, aux croyants, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Vous savez que on chante ce chant des fois, Dieu nous aime comme un père. Et la dernière fois, j'ai dit, j'aime pas qu'on chante comme ça. Je voudrais qu'on chante, Dieu nous aime plus qu'un père. Parce que il y a des personnes parmi nous qui ont eu des pères, ça n'a pas été un exemple. Hein. C'était même catastrophique. Alors je préfère qu'on chante plus qu'un père. Et d'ailleurs Jésus le dit. Quand on prend ce passage de Matthieu, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Donc on a un Père formidable. Un Père qui dépasse tous les pères. Et c'est vrai que il y a des personnes qui ont du mal à dire Père dans leur prière. Parce qu'ils pensent tout de suite à leur Père. Terrestre. Et Tim Chester, qui a écrit un livre, Prier, c'est pourtant simple, a dit ceci, la mère d'un de mes amis a eu un père alcoolique qui était souvent violent avec elle aujourd'hui. Elle ne parvient pas à considérer Dieu comme son père. Alors il lui a donné un conseil. Il dit, essayez plutôt de voir les choses ainsi. Le simple fait que vous soyez déçu de votre Père terrestre ou en colère contre lui prouve que vous savez à quoi devrait ressembler un bon père. Eh bien, Dieu est le père que vous avez toujours désiré avoir. Donc si ce matin il y a quelqu'un qui a une souffrance par rapport à son père, eh bien, Dieu est le père que vous aviez toujours désiré avoir. Et devant ce père, on peut s'approcher en toute confiance. On peut se décharger sur lui. Même juste un petit peu avant ce passage sur le Notre Père, où il dit, mais rentre dans ta chambre. Là, ferme la porte, prie, et ton père qui est là dans le lieu secret. Oh, vous voyez un peu cette intimité? Ton père qui le voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, c'est fort. Ce père qui prend soin de nous. Il y a presque 34 ans de ça, on avait trois enfants. Nelly avait que 3 mois, la troisième, et Lydie, elle est tombée très très malade, et j'étais inquiet, très inquiet, et une nuit j'arrivais pas à dormir, et il y a eu ce verset, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole. Il y a eu ce verset qui m'est revenu: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et je suis tombé sur la fin, prends soin de vous, prends soin de vous, prends soin de vous, prends soin de vous. Et je me suis endormi. Formidable, hein? Un bon remède, hein? Et c'était une expérience, voilà, il prend soin de nous. Ah oui, mais attendez, oui, mais Dieu est châtié quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est très intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Il châtie qui? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ah oui, parce que les autres, c'est des enfants illégitimes. Donc le châtiment du Seigneur, il ne faut pas le voir comme le père fouettard. Et c'est pour ça qu'il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc n'ayons pas peur. Si Dieu est mon Père, je peux tout lui dire. Je peux même pleurer devant lui. Je peux dire peut-être des fois, Seigneur, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Je peux tout lui dire. Ça, c'est formidable. Et de savoir, je te tiens dans ma main. C'est ce que dit la parole. Il nous tient dans sa main. Voilà un père. Il est ce père formidable. Et en plus, ce père, il est aux cieux. Il est au-dessus de tout. Il n'est pas limité comme un père charnel. Il a le contrôle sur nos vies. Rien lui échappe. Dans le psaume 113, il est dit, l'Éternel s'est élevé. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Voilà. Voilà. Et Nebuchadnezzar a eu cette expérience de reconnaître que Dieu est aux cieux. Lui qui dit, ah, c'est moi qui ai bâti Babylone. Jusqu'au jour où il a pu confesser, je te loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies qui sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Notre Père qui est aux cieux. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que ton nom soit sanctifié. Là, ça va nous engager. On dit voilà, que ton nom soit sanctifié. Ouais. C'est reconnaître ce qu'il est, lui rendre gloire. Dans 2 Corinthiens, c'est marqué que la sainteté de ton nom soit respectée. Et on peut donner différents titres. Il est le souverain, il est l'éternel des armées, il est le saint d'Israël, il est le très haut, il est le souverain, il est le tout puissant, il est le maître du ciel et de la terre. C'est vrai qu'il y a un groupement qui dit, il faut dire le nom de Dieu, Jéhovah. Eh ben, le nom de Jéhovah, c'est faux. Eh oui. Parce que il ne fallait pas qu'ils prennent le nom de Dieu en vain. Les Juifs, quand ils voyaient le tétagramme YHVH, ils disaient Adonai, qui veut dire Seigneur, parce qu'ils ne voulaient pas dire le nom de Dieu, de peur de blasphémer. Et à l'époque, il n'y a pas de voyelle en hébreu. Plus tard, les Massorètes ont mis des points voyelles. Et quand ils ont vu cela, ils ont mis des points voyelles de Adonai. Et du coup, ça fait Jéhovah. Mais ça fait comme si je prenais Daniel et je mettais les voyelles de Michel. Donc on ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas si c'est Yahvé ou Yahvou. Voilà. Mais ce n'est pas dire le nom. Parce que je peux dire le nom de Dieu et pas le sanctifier. Et moi, je préfère appeler Dieu papa, père. Mon père, je ne l'appelle pas Auguste. Je l'appelle papa. Même à mon âge. Vous voyez ? Donc, sanctifier le nom du Seigneur, c'est faire attention à ce que je dis dans ma bouche. Et combien, hélas, on peut prendre le nom de Dieu en vain ? Et c'était dans les 10 commandements déjà. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc les jurons, tout ce qui est blasphème. Il n'y a pas simplement les paroles, mais aussi les actes. Vous savez que Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu à un moment donné ? Il le dit d'ailleurs dans la parole. Il dit ceci dans Deutéronome 32. « Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsim, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Tu verras le pays devant toi, mais tu n'y entreras point. Voilà. Il n'avait pas sanctifié le nom de Dieu. Il l'avait battu de reprise et il n'avait pas cru. Là, en fin de compte, on peut salir le nom de Dieu par ma façon d'être, même par mon incrédulité. Ou un autre passage dans Malachie, où il est dit « Un fils honore son père » et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? Sans disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand on offre une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, et tu recevras-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Voyez, le nom de Dieu peut être déshonoré par ma façon d'être. Donc quand on dit que ton nom soit sanctifié, ben il faut que nos vies, nos actes, correspondent à ce que je dis. Vous voyez, ça nous engage, le Notre Père. Et vous savez, c'est quelque chose... Il y a une souffrance de la part de Dieu que son nom soit sali. Il y a une véritable souffrance. Que le nom de Dieu soit sali, ça l'offense. À un tel point que dans Ézéchiel, où il parle de son peuple qu'il a dispersé à cause de l'idolâtrie, il dit « Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. » En sorte qu'on disait d'eux « C'est le peuple de l'Éternel !» C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous ayez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. C'est pour sanctifier le nom de Dieu. Très intéressant. Hein ? Est-ce que dans ma vie, le nom de Dieu n'est pas sali ? Vous savez, quand vous êtes pris en faute par quelqu'un qui n'est pas croyant, puis qui vous dit « T'es croyant, toi ? Puis tu fais ça ?» Le nom de Dieu est sali. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Un jour, avant, j'avais des autocollants derrière ma voiture. J'en ai plus maintenant. Je vais vous dire pourquoi. J'avais un autocollant derrière ma voiture. Et puis, il y avait quelqu'un à côté de moi un jour. Et puis, il y a quelqu'un qui, bon, je ne me rappelle plus, il avait fait quelque chose, bref. Et celui qui était à côté de moi, il s'est mis à engarlander celui qui avait fait quelque chose. Oh, j'ai dit, oh Seigneur. Et du coup, j'ai enlevé l'autocollant. J'ai dit, comme ça, au moins, parce que alors, si vous avez un autocollant, vous avez intérêt à bien conduire et pas faire que de poisson et pas klaxonner pour un voyant un an. Parce que le nom de Dieu peut être sali en disant, ah bah, voyons, on ne montrait pas l'exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus d'autocollants derrière ma voiture. Alors, si vous en avez un, bah, c'est comme les gens qui ont une croix, qui veulent montrer qu'ils soient chrétiens, mais qui montrent aussi, vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir un signe, hein. C'est déjà de le faire voir. Bon, si vous en avez un, ok, mais il faut que ça corresponde à ce que vous vivez. Autrement, c'est mieux de rien dire. Hein. Donc, voilà, c'est une leçon, mais c'est important. Parce que si on veut que le nom de Dieu soit sanctifié, bah, faisons attention à la façon de nous comporter et de la façon de parler aussi. Que ton règne vienne. Et c'est vrai. Pour le chrétien, déjà, on pourrait dire que le règne a déjà commencé. Parce que le Seigneur est dans nos vies. Il règne dans nos cœurs, en principe. Il est le maître de nos vies, il est le Seigneur. Et même, on a cette position-là, où il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais nous savons aussi que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Et on ne peut pas dire que le Seigneur règne dans ce sens où il n'est pas encore revenu. Nous savons que le Seigneur va revenir, on l'attend. D'ailleurs, il y a cette prière, « Viens Seigneur Jésus, viens, viens bientôt. » Et nous savons qu'il va établir un règne de 1000 ans. Nous croyons aussi qu'il remettra tout entre les mains de son Père et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais est-ce que le Seigneur est le maître de ma vie? Parce que ton règne vienne, oui, mais est-ce que j'accepte qu'il soit déjà dans règne, Seigneur? Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Est-ce que c'est lui qui a le dernier mot? Est-ce que j'obéis à ce qu'il me dit? Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur si je lui dis non. Est-ce qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur? Est-ce que j'ai laissé ce Roi de gloire entrer dans ma vie? Sinon, bah j'aime bien lire les paroles de ce cantique. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves une place dans ton cœur. Point pour le Sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe. Il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa main puissante. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Et on finit aujourd'hui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là aussi, ça va être une parole qui va nous engager. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il y a deux façons de voir. Est-ce que j'accepte sa volonté dans ma vie? Et est-ce que j'accepte de faire sa volonté? Est-ce que j'accepte sa volonté quand je passe par une souffrance, quand il y a une porte qui est fermée? Quand je désirais faire telle chose et ça ne marche pas? C'est vrai que ça fait mal. Et pas évident quand on passe par la maladie ou la souffrance. Et dire, oui Seigneur, j'accepte ta volonté. Vous voyez, ça engage. Que ta volonté soit faite. Oui, ta volonté soit faite. Même sur ce que je vis, j'accepte. Wow. C'est fort, hein? Comme il est dit dans Pierre, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Job disait, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur. C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait ma volonté. Oui, mais j'ai fait ceci, cela. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Et ça devrait être notre moteur dans nos vies. Dans toute décision que je prends, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Parce que je veux faire sa volonté. Je ne veux pas être là où Dieu ne veut pas que je sois. C'est important. Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est ça qui prime. Je veux être là où toi tu veux que je sois. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Ce que Dieu veut, je veux le faire. Et ce que Dieu ne veut pas, je ne veux pas. C'est important. C'est très, très important. C'est ça qui doit motiver nos vies. Un croyant, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu. C'est primordial. Primordial. Parce qu'il est notre maître, il est notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est bon de se poser la question, même pour un avenir, même pour un métier. Seigneur, je veux faire tel métier. Il faut le soumettre au Seigneur. Est-ce que tu es d'accord que je fasse ce travail-là? Est-ce que tu es d'accord que j'apprenne ce métier-là? Pour me marier aussi. Est-ce que tu es d'accord que je prenne ce conjoint-là, ou cette conjointe-là? Est-ce que tu es d'accord? Même quand je vais changer d'endroit, pour peut-être s'il va acheter une maison ou ailleurs. Quelle est ta volonté, Seigneur? Pour aller dans telle église, quelle est ta volonté? Chercher la volonté de Dieu, c'est important. Et ça doit être le désir de nos cœurs. Et vous savez que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il peut arriver ce qu'il veut. Je me rappelle d'un témoignage il y a 42 ans. C'était en août 76, un missionnaire qui était au Liban. Et on lui disait, mais reviens en Suisse, tu serais en sécurité. Il y avait des bombes qui tombaient à côté de l'église. Il a dit, je suis là où Dieu veut. C'est ça qui est le plus important. Ouah ! Être là où Dieu veut. Nous allons prier.